Je parle une heure,
et puis après une demi-heure d'échange.
Je vais vous présenter.
D'accord.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette maison dans laquelle vous ne pénétrez pas, je pense, pour la première fois, donc j'écourterai les présentations, à moins qu'il y ait des gens qui viennent ici pour la première fois. Voilà, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Xavier Lacroix, qui est un ami de cette maison. Alors je vous permets de rappeler ses nombreuses vies successives, parce qu'on connaît tous plus ou moins Xavier Lacroix, mais on ne sait pas forcément toutes les carrières successives qu'il a parcourues. Donc Xavier Lacroix a une formation de philosophe et une formation littéraire. À la suite de quoi il a enseigné
17 ans
à Sainte-Marie, compagnon de route de Jean-Noël Dumont, de Noël Bertuca, ici présent. C'est avec eux d'ailleurs qu'il a fondé le centre Kierkegaard dans les années 70, comme un lieu de réflexion d'inspiration chrétienne dans la cité. On peut considérer que le collège supérieur est une sorte de résurgence du centre Kierkegaard. Et puis donc Xavier Lacroix, parallèlement à son enseignement, fait des études de théologie et est devenu docteur en théologie sur la spécialité de la théologie du corps. Sa thèse a fait l'objet d'une publication très remarquée. Et il est devenu professeur à l'Université catholique, à la grand désespoir des maristes. Et
Père Perrault m'a encouragé. Il m'a dit nul indispensable. Belle phrase.
Voilà. Et il est devenu doyen de la faculté de théologie, premier doyen de la faculté de théologie. Voilà. Parallèlement à ses enseignements donc universitaires, il a publié de nombreux livres. Et alors, je ne peux citer de mémoire que quelques titres. Les mirages de l'amour, le corps de chair, la paternité, père passeur de vie, et beaucoup d'autres. Et puis, donc, il y a exactement 4 ans, sur une décision du président de la République, il a été nommé au Comité national du consultatif d'éthique, et c'est en cette période d'élection où les sujets éthiques sont plus ou moins sous-jacents au débat, pas forcément très explicités, encore moins très pensés, on a pensé que c'était une bonne idée de nous parler donc du mode de fonctionnement, de la finalité de ce comité consultatif d'éthique. Voilà. Donc vous allez apprendre à parler environ une heure et ensuite nous aurons un large temps pour poser nos questions.
Merci Xavier pour ton bon accueil. Merci à vous tous d'être présents. Je suis heureux de me trouver ici. J'aurais aimé participer à la séance précédente sur les comités d'éthique régionaux, puisque nous avons des liens avec les comités régionaux, de même qu'il y en a dans les hôpitaux aussi, mais je n'ai pas pu être là. Peut-être que vous suivez l'ensemble du cycle et le Digiroux aussi. Donc tout ceci forme un ensemble, bien sûr. Donc je vais vous parler donc du Comité consultatif national d'éthique, du travail que j'ai fait depuis 4 ans. D'abord en termes assez généraux, informatifs, je vous préviens, et puis après, donc davantage, je vous dirai des questions que je me pose. Donc le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, pour les sciences de la vie et de la santé, l'expression complète, on ne traite pas toutes les questions d'éthique, heureusement d'ailleurs, ça serait de la folie, hein, pour les sciences de la vie et de la santé, donc principalement la biologie et la médecine. Principalement. Donc, a été créé en 83 par François Mitterrand, par un décret, le décret du 23 février 83, où on peut lire « Le comité a pour mission de donner son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. » Voilà. Donc, problèmes moraux soulevés par biologie, médecine, santé. Donc il s'agit d'une autorité administrative indépendante, c'est son statut, un peu comparable, si vous voulez, à la HALDE, au CSA, au Défenseur des droits, ou à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, auxquelles nous ressemblons, pas mal. Donc quelques autorités comme ça, donc qui sont indépendantes du point de vue autorité, du point de vue pouvoir, mais qui dépendent bien sûr d'un ministère pour le financement. Nous dépendons du Premier ministre. Au départ, il était rattaché au service du ministère de la Recherche et de la Santé, et maintenant donc du Premier ministre, qui nous héberge aussi d'ailleurs. Et il a été redéfini, vous pourrez voir éventuellement même sur Internet, sur Google, par un décret du 28 avril 2005, qui précise des choses de fonctionnement, etc. Je ne parlerai pas plus sur les questions de fonctionnement, pour répondre à vos questions, s'il y en a, si je peux y répondre. Dans la loi donc dite de bioéthique de juillet 2011, donc la fameuse loi de révision des lois de bioéthique du 7 juillet 2011, il est mentionné donc à deux reprises, il reçoit la charge d'organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les 5 ans. Bon, est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas, en principe, donc états généraux tous les 5 ans. Et puis donc, il reçoit chaque année, en principe également, des parlementaires, donc de l'office parlementaire, un rapport d'activité, donc notamment activité en matière d'éthique médicale, notamment de l'ABM, l'Agence pour la biomédecine. Donc via les parlementaires, un rapport sur l'activité de l'ABM et d'autres instances qui ont de l'autorité en matière de médecine. Et donc en principe, il se prononce sur ce rapport. Donc les parlementaires lui envoient ce rapport en principe d'après la loi de juillet. Je vous dirai après donc comment ils travaillent, quels sont les sujets, comment ils sont choisis. Tout d'abord, donc, je précise un petit peu sa composition. Donc, il est composé de 40 membres, donc 39 plus le président. Donc, sur les 40, vous le verrez sur le site éventuellement, il y en a 5 qui sont désignés directement par le président de la République, parce qu'ils représentent les grandes familles spirituelles et philosophiques. En fait, ils ne représentent pas, c'est un terme que je critiquerai après, on ne représente pas, mais on appartient à. Donc, c'est au titre de l'appartenance à. Aux grandes familles philosophiques et spirituelles. Donc, à l'époque, Mitterrand en avait repéré 5. Donc, le judaïsme, il y a un rabbin, il y a un musulman, donc là, il y a un choix parmi les nombreuses tendances musulmanes, un philosophe musulman, le catholicisme, donc votre serviteur, donc est choisi par le président de la République en accord avec le président de la conférence épiscopale, évidemment. Donc, à l'époque, c'était le cardinal Ricard. Puis ensuite, il y a eu un changement de président de la République et de président de la conférence épiscopale en même temps. Donc, ça a été le cardinal 23. Et puis, donc quelqu'un qui est présent au titre du protestantisme, ça a longtemps été un réformé, Olivier Abel, maintenant, c'est un baptiste, un évangélique baptiste, Louis Schweitzer. Et puis, donc, Mitterrand avait inventé une cinquième religion à l'époque, qui était les libres penseurs, donc représenté actuellement par Luc Ferry, donc les sans religion. Donc, autrement, il y a 19 membres qui sont donc personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique. Donc, ça peut être des philosophes, comme André Comte-Sponville, par exemple, ou Pierre Lecauze. Ça peut être des juristes, comme Philippe Vaquet ou Michel Roux. Ça peut être des journalistes, comme Alain Gérard Slama, ou... journaliste, voilà, ou un député, donc quelqu'un représente l'Assemblée nationale, c'est Bernard Debré, quelqu'un représentait jusqu'à maintenant le Sénat, Marie-Thérèse Hermange, mais elle n'a pas été réélue, donc quelqu'un d'autre doit la remplacer, quelqu'un également présent au titre de l'UNAF, Madame Le Bâtard. Donc il s'agit donc de grands corps de l'État qui désignent quelqu'un, donc soit les ministères, soit le CNRS, soit l'Institut Pasteur, soit la conférence des présidents d'université qui envoie chacun une personne. Donc 19 choisis comme cela en raison de leurs compétences. Donc ça va, vous voyez, des philosophes aux juristes, en passant par quelques médecins hospitaliers, une membre de la Cour de cassation, Frédéric Dreyfus-Netter. Voilà. Et puis donc, il y a 15 personnalités appartenant au secteur de la recherche. Je ne sais pas comment ils sont nommés, mais tous sont dans la recherche scientifique. Donc quelqu'un de l'INSERM, Jean-Claude Ameisen, Yves Agide, qui est la principale autorité en France pour ce qui est de la neurologie, Marie-Germaine Bousser, également neurologue, des scientifiques, Françoise Héritier, du Collège de France, en tant qu'anthropologue, Claude Sureau, ancien président de l'Académie de médecine, en tant que clinicien, voilà, Patrick Gaudret, du CNRS. Donc vous remarquez qu'en fait, il y a une majorité de médecins, et c'est un des premiers problèmes d'ailleurs que l'on peut évoquer, je traiterai après. Mais il y a une nette majorité de médecins. Donc il faut entrer dans leurs problématiques, dans leurs discours, le type de texte auquel ils se réfèrent, des études qui montrent que, études souvent statistiques, cas cliniques, n'est pas tellement le mode de raisonnement d'un philosophe et d'un théologien. Et puis, donc, ils ont une connaissance de la clinique, de l'écoute, de la relation de soins, bien plus grande que les autres. Et comme ils sont majoritaires, ils ont une certaine aura, et donc il faut entrer dans leur discours. C'est une des difficultés. Cette confrontation permanente à des problématiques qui sont au fond médicales. Donc nous sommes quand même 6 philosophes, mais donc tous assez différents. Donc André Comte-Sponville est plutôt du genre sceptique, spinoziste, même s'il est de formation catholique. Roger Paul Droit donc est agnostique, spécialiste de la philosophie de l'Antiquité, comme vous savez peut-être. Il y a donc Pierre Lecauze également qui est agnostique. Il y a un musulman, mais assez libéral, assez critique. Donc nous sommes tous très différents. Bon, mais en même temps, donc, on se comprend. Mais les philosophes, entre eux, se contredisent souvent. Et puis quatre juristes, donc de haut niveau, qui eux, donc, sont précieux, parce que j'aime beaucoup le discours des juristes. Moi, j'apprends beaucoup à leur écoute, toujours. Ils sont précis, clairs, nets. Puis le droit est à l'intersection entre les idées et les faits sociaux. Vraiment à l'intersection entre les deux. Et ils tiennent compte des réalités sociales et en même temps, ils ont des idées. Donc, c'est une discipline que je trouve très précieuse. Donc, il peut être saisi, le comité, par des personnalités donc définies par le décret de 2005. Donc, des ministres, président de la République, des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement public, des fondations, par exemple, le directeur du CNRS ou de l'agence de biomédecine, donc des gens qui ont une autorité dans le domaine de la médecine et de la science peuvent nous saisir. Mais nous pouvons également nous auto-saisir, c'est-à-dire qu'un membre du comité dit qu'un sujet serait intéressant, et à ce moment-là, il y a un vote. C'est une des rares fois, d'ailleurs, pour lesquelles il y a un vote pour savoir si on adopte ou pas ce sujet. Donc, il peut y avoir auto-saisine, et puis il peut y avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à une auto-saisine, quelqu'un qui écrit. Donc, vous pouvez écrire au CCNE pour lui dire qu'une question vous paraît importante. Faites une lettre d'une page, vous argumentez votre questionnement. Et donc, la section technique ou le comité plénier, ou uniquement la présidence, dans certains cas, examine la lettre. Et puis donc, soit la section technique, soit le comité plénier décide ou pas de faire une auto-saisine à partir de la lettre envoyée. Donc, le comité est consultatif, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide, comme vous le savez, donc sans doute déjà. Ce sont bien sûr les politiques qui décident, ou ceux qui ont l'autorité, donc au CNRS, ou directeur d'hôpitaux, ou chef de... directeur de recherche, qui décide, ce n'est pas nous qui décidons, mais nous sommes consultés. C'est-à-dire que sur un sujet difficile, donc des sujets délicats comme le don d'organes ou le prélèvement de sang de cordon, vous voyez, ou la sexualité des handicapés, tout le monde n'a pas le temps de lire tout, sur tous les sujets. Donc le comité, je vous dirai après comment, travaille sur des avis qui font 20 ou 30 pages environ, un peu plus ou un peu moins, en gros, 20 ou 30 pages. Et donc ceux qui ont à prendre des décisions, eh bien, consultent ces avis. Voilà, c'est-à-dire que ces avis sont lus par ceux qui vont décider. On n'a pas le temps de tout lire. Parmi les quelques textes que l'on lit, il peut y avoir un rapport du Conseil d'État, il peut y avoir un rapport de l'Office parlementaire, bien sûr, d'autres textes. Mais parmi les textes qui sont lus, il y a l'avis du CCNE. Donc c'est une première synthèse, si vous voulez, pour ceux qui vont prendre des décisions. Je vous dirai après comment ces synthèses, ces avis sont élaborés. Donc nous travaillons uniquement par production d'avis, donc à ce jour, donc depuis 83, donc en 29 ans, n'est-ce pas, il y a eu 116 avis. Donc à vous de compter la moyenne, enfin, le prochain avis 116 est pour la semaine prochaine. Donc les sujets peuvent vous intéresser, donc les sujets sont très variés, vous pouvez les consulter en allant sur le site. J'en lis quelques-uns, vous voyez, donc sont en cours de publication, donc les banques de sang de cordon, qui posent des questions éthiques particulières, les enjeux éthiques de la neuroimagerie, donc des neurosciences, mais spécialement de la neuroimagerie, ou bien alors donc les problèmes éthiques récemment, donc 110, les problèmes éthiques soulevés par la gestation pour autrui. Là, c'était un sacré débat, vous imaginez, le CCNE s'est prononcé contre, mais non sans débat. ou un avis, donc au cours de la révision des lois de bioéthique, il y a environ un an, 18 mois, sur la recherche sur l'embryon, enfin la recherche sur les cellules souches d'origine embryonnaire et sur l'embryon. L'avis a distingué les deux sujets. Éventuellement, je dirai après pourquoi. Ou des questions éthiques soulevées par le développement et le financement des soins palliatifs. Donc, tout le monde est pour, mais ils se développent peu, comme vous le savez, ou pas assez. Pourquoi? Bon. Ou donc un avis sur le dossier médical personnel, donc, qui est en train de se diffuser, mais lentement. Je crois qu'on en est à 75 000, beaucoup moins que prévu. Le CCNE était réticent, donc dès 2008. Quand je suis arrivé, il était en train de travailler sur le dossier médical personnel. Avant, donc, il y avait eu un avis sur la santé mentale en prison, vous voyez, ce genre de sujet-là. Un avis sur les questions éthiques posées par les nanosciences, les nanotechnologies, en 2007. Avant, donc, il y avait un avis sur les origines anonymes, le secret d'affiliation, hein, autour de l'IAD et de l'accouchement sous X. Donc, il y a eu d'autres avis du même type, je passe. Il y en a eu sur les banques de sang de cordon déjà, en 2002, l'avis 74, sur la xénotransplantation, la xénogreffe, en 99, enfin voilà, donc 116 avis. Donc comment travaillons-nous? Eh bien, production d'avis, comme je vous le disais, donc ils sont rédigés par des groupes de travail, qui se réunissent environ une fois par mois. Un groupe de travail, donc, réuni entre 5 et 10 personnes, des gens intéressés ou désignés par le président, censés être compétents ou s'intéresser à la question. Et puis, donc, il y a deux rapporteurs. Un rapporteur dit scientifique, généralement médecin ou biologiste, et puis un rapporteur non scientifique, philosophe ou juriste, ou simplement praticien de soins, ou psychologue. Donc, deux rédacteurs, un groupe de travail, qui se réunit pendant facilement un an. Il faut du temps pour produire un avis, mais bien un an. Comme disait quelqu'un un jour, nous ne sommes pas un SAMU éthique. Certains aimeraient avoir une réponse tout de suite, posent la question au CCNE, ils voudraient qu'on réponde dans les 15 jours qui viennent. Nous ne sommes pas un SAMU éthique. Donc il faut bien un an pour produire un avis. Donc quand l'échéance est trop courte, ça ne marche pas. Donc le groupe de travail se réunit longtemps, travaille beaucoup. C'est au sein du groupe de travail qu'il y a des dissensions. On n'est pas tous d'accord. Par exemple, j'ai parti du groupe de travail sur la recherche sur l'embryon. Ben, je veux dire qu'on n'était pas tous d'accord avec mes collègues, hein, et avec les rédacteurs aussi d'ailleurs, hein. Donc je dirai après la difficile gestion des désaccords. Donc déjà au sein d'un groupe de travail, il y a à gérer le désaccord. On apprend à le faire. On produit un texte. Moi, c'est pas facile de produire un texte à 8 ou 10, hein, en n'étant pas d'accord. Donc je pourrais éventuellement répondre à vos questions, mais ce n'était pas facile. Et puis ensuite, donc, le plus dur, c'est le passage devant le comité plénier. Entre-temps, il y a eu la section technique, une sorte de section permanente, qui valide le texte. Et puis après, donc, le comité plénier, lequel se réunit une fois par mois. Donc nous avons une réunion plénière une fois par mois. Et donc là, on examine les avis qui ont été produits, et on reste facilement 2 heures ou 3 heures sur un avis. On peut rester une matinée entière, les réunions durent 4 heures, elles sont assez longues, de 9 heures à 13 heures en général, non-stop, sans pause, je trouve ça un peu lourd. Et donc on peut rester 2 heures ou 3 heures sur un avis. Donc les tours de table à 40 durent assez longtemps, vous imaginez, c'est compliqué, vous demandez la parole, vous l'avez une demi-heure après, entre temps on a dit autre chose, et puis vous n'avez pas le temps de répondre à ce qui se dira après, c'est pas simple de discuter à 40. Hein. Donc on discute du texte. Donc toujours, il y a des gens qui sont d'accord avec le texte, des gens qui ne sont pas d'accord avec le texte. Alors ceux qui rédigent, de bonne foi en général, d'ailleurs honnêtement, font le maximum pour intégrer les remarques qui sont faites, ou promettent de le faire, c'est le problème, parce que entre le moment où il est adopté avec promesse d'intégration, et puis le moment où il est promulgué, il y a quelques jours qui s'écoulent, et on ne sait jamais exactement ce que vont faire les rédacteurs. Enfin, en principe, donc, ils tiennent compte... de la plupart des amendements proposés, mais pas de tous, parce que s'il y a des amendements contradictoires, ben ma foi, il y en a qui passent à la trappe, hein. Ça c'est inévitable. Et le principe est le consensus. Donc le CCNE est censé travailler au consensus, c'est-à-dire que les 4 présidents successifs, je vous dirai leur nom éventuellement après si vous voulez, les 4 présidents successifs ont tous été contre le principe du vote. Tous très très contre. Le principe du vote, donc, disent-ils, introduirait un principe de rapport de force. on agirait, vous voyez, on se mobiliserait, il n'y a qu'à voir l'élection présidentielle actuellement, pour arriver à 60%, ouf, on est arrivé à 60%, même 55%, 51%, et le texte passerait. Donc ça resterait rapport de force, et non pas consensus au sens que c'est le plus grand terrain commun sur lequel on arrive. Donc des gens d'appartenance différentes, il y a des francs-maçons, des catholiques, des musulmans, des juifs, des scientifiques matérialistes purs et durs, arrivent à une sorte de PGCD, de plus grand commun dénominateur. Voilà, c'est le PGCD entre toutes ces options-là. Voilà. Donc le président pense que s'il n'y a pas de vote, un accord, un effort plus grand est fait pour parvenir à ce PGCD, voilà, ce plus grand commun dénominateur. Il est vrai d'ailleurs que généralement il y a un terrain appréciable qui est trouvé. Je vous dirai après les difficultés que ça pose, les décisions qu'on a à prendre quand on se trouve dans l'opposition. J'en parlerai après. Alors donc j'ai prévu de parler de trois sujets. Là ce n'était qu'une introduction, mais rassurez-vous, je vais me limiter au temps imparti. Premier sujet donc, c'est éthique et droit, après des exemples de débats. Et puis je finirai par les difficultés d'une éthique, justement, difficultés donc d'une éthique du consensus. Donc, une des difficultés que nous rencontrons, c'est la relation entre éthique et droit. Parce que, généralement, c'est de textes de loi que nous débattons, ou de règlements, ou de ce qui va être permis ou interdit. Donc, c'est surtout par rapport au juridique que l'on se situe. Et donc la difficulté, le risque serait de confondre éthique et droit, donc de penser que parce qu'une mesure est juridique, elle est éthique, ou parce qu'elle est éthique, elle doit forcément être juridique. Entre l'éthique et le droit, ma thèse est que la relation est la suivante, il ne doit y avoir ni confusion, ni dissociation. Donc pas de confusion entre éthique et droit, tout ce qui est éthique n'est pas juridique, tout ce qui est juridique n'est pas éthique. Et puis, non plus, pas de dissociation. C'est-à-dire que il faut bien qu'il y ait des passerelles, des passages de l'un à l'autre. Il faut bien que le droit exprime une éthique, que des valeurs éthiques passent dans le droit. Donc, l'éthique est au-delà du droit. C'est une visée. Paul Ricoeur disait c'est la visée du bien-vivre. Et donc... une des difficultés que nous rencontrons, que j'évoque tout de suite, c'est la difficulté de se mettre d'accord sur le mot éthique. Parce que nous sommes en principe un comité national d'éthique. Dès le début des avis, toujours, on soulève des difficultés éthiques posées par des situations, des pratiques, comme le prélèvement de sang de cordon, par exemple, et autres. Il n'empêche qu'entre nous, on n'est pas très d'accord sur le sens même du mot éthique. Un des membres du comité, je peux dire son nom, malgré le devoir de réserve, André Comte-Sponville, a un refrain souvent, il dit « La République n'a pas de philosophie ». Et généralement, il est approuvé. Moi, je suis de ceux qui s'élèvent contre cette affirmation, parce que je pense que la République a une philosophie, et que la simple devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, est déjà une philosophie. En fait, d'autres fois, il dit « La République n'a pas de métaphysique ». Ça, c'est peut-être plus clair, plus acceptable. Il est vrai que nous ne sommes pas d'accord sur une métaphysique commune, si nous ne sommes pas de la même religion, de la même appartenance idéologique, etc. Donc la République n'a pas de métaphysique, peut-être. Et donc la question devient, peut-on élaborer une éthique sans métaphysique? Je vous la livre, je vous la pose telle qu'elle se pose. Donc un discours éthique sans métaphysique commune. Parce qu'avec les matérialistes ou d'autres, je n'ai pas la même métaphysique, c'est vrai. Et donc le problème, c'est qu'il faut élaborer une éthique commune. Donc peut-on élaborer une éthique sans métaphysique? C'est une question que je vous renvoie. J'ai reposé un jour dans une plaquette du CCNE une définition de l'éthique que je fais mienne, que je retiens depuis longtemps. Le béaba, donc de l'éthique, c'est le souci des biens humains fondamentaux. Je pense qu'il y a problématique éthique quand il y a souci de biens humains fondamentaux. Quand sont en jeu pas seulement des questions pragmatiques, je distingue l'éthique et le pragmatique. Le pragmatique, donc, c'est le meilleur rapport coût-bénéfice. Et beaucoup de gens sont pragmatiques aujourd'hui parce que beaucoup de gens se limitent à poser les questions en termes de rapport coût-bénéfice. Et c'est là que la problématique médicale, parfois, est un peu envahissante. Donc, on prend les bénéfices, on prend le coût, et puis on compare les deux et on décide du côté, bien sûr, des plus grands bénéfices. En fait, ce n'est pas si simple. Dans l'éthique sont en jeu des biens humains fondamentaux. Donc des repères, des bases, des principes, des idées qui construisent l'humain, sur lesquels l'humain se construit. Et donc la difficulté est de se mettre d'accord sur ces biens humains fondamentaux. Et surtout sur leur hiérarchie. Un exemple typique souvent cité entre nous, c'est la hiérarchie entre la liberté et le respect de l'embryon. Tout le monde est pour la liberté et tout le monde est pour le respect de l'embryon. Simplement donc la hiérarchie n'est pas la même. Certains mettent la liberté avant tout, jusqu'au bout la femme doit être libre d'eux, et d'autres mettent le respect de l'embryon avant tout. Ils passent avant la liberté, bon, puisque c'est un donné fondamental. Donc nous ne sommes pas d'accord toujours, n'est-ce pas, dans la hiérarchie entre les biens humains fondamentaux, que parfois on appelle les valeurs. Moi je trouve le mot un peu vague. Donc je préfère dire des biens humains fondamentaux. Donc repérer où sont les biens humains fondamentaux. Et donc ce n'est pas si facile de les repérer. D'autant plus qu'actuellement, dans le discours, pas dans le droit. Est-ce qu'il y a des juristes parmi vous? Peut-être qu'il y en a des juristes. Dans le droit, heureusement, le droit est plus sage. Mais dans le discours, bien souvent, donc domine une philosophie du droit libérale, ultra-libérale, individualiste, disons. Notamment, beaucoup seraient d'accord avec la phrase de Michel Foucault, que j'avais entendue un jour. « Mon principe, donner le maximum de droits au maximum d'individus. » Donc voilà, beaucoup seraient d'accord avec ce point de vue très individualiste. Maximum de droits au maximum d'individus. Et donc, liberté, égalité seraient les seuls mots clés. Il y a beaucoup de gens qui discutent comme si liberté, égalité étaient les seuls principes. Vous respectez liberté, vous respectez égalité, ces deux mots d'ailleurs renvoyant l'un à l'autre un peu comme en miroir d'ailleurs, hein, et puis c'est tout, ça suffit. Ça c'est la philosophie que j'appelle libérale ou libertaire, hein, du droit, qui domine beaucoup le discours. Heureusement pas trop les règles de droit, heureusement elles sont plus sages, plus réalistes. Hein. Et donc la difficulté est de se mettre d'accord sur des biens communs, des biens humains communs. La question est de savoir si le droit a comme vocation uniquement de défendre liberté et égalité, donc l'individu, ou s'il y a des principes éthiques communs, des biens éthiques communs. Alors heureusement, dans le droit français, il y en a. Et tout examen des lois de bioéthique ou des lois qui régissent la médecine, la santé, perçoit ces repères éthiques communs. Notamment, il y en a au moins trois qui sont assez clairs en France, dans le droit français, et dans les repères que nous avons quand nous parlons de toutes ces questions-là. Il y a le principe du respect de la dignité de la personne. C'est un principe sacro-saint, personne égale dignité, dignité égale personne, non-instrumentalisation, non-objet, et une des traductions, c'est le respect du consentement. Le respect du consentement éclairé est un principe sacro-saint actuellement, d'ailleurs, à tel point d'ailleurs qu'il me pose parfois question, je ne suis pas sûr qu'il suffise, mais le respect du consentement est la médiation élémentaire du respect de la dignité de la personne. Un deuxième principe que l'on peut apprécier, c'est l'indisponibilité du corps humain. L'indisponibilité, donc, ça se traduit dans des règles précises, c'est la non-patrimonialisation, donc il n'est pas patrimonial, il ne peut pas être commercialisé, etc. Gratuité, anonymat, tout ce qui concerne le corps ou des éléments du corps, comme vous savez, des tissus, des organes, donc relève de la gratuité et de l'anonymat quand il est possible. Donc le corps n'est pas un objet, et apprécions que dans le droit français, le corps soit indisponible. Il n'est pas une chose, il n'est pas une propriété, il n'est pas un objet commercialisable, apprécions. Et puis également, un troisième principe, c'est celui de solidarité en France, qui fait que vous trouvez normal sans doute qu'il y ait la sécurité sociale, ou que les gens en bonne santé payent pour les gens malades, que les riches payent pour les pauvres. La solidarité est un des principes admis, même parfois de manière presque aveuglément dans notre culture. Hein. On trouve normal de rembourser par exemple l'avortement, de rembourser la contraception, bon, ça ne me paraît pas si évident que ça, mais enfin bon, c'est acquis, c'est normal, bon, il y a une évidence, la solidarité. Bon, voilà. Donc il y a des valeurs communes, on pourrait développer d'autres valeurs communes encore. Vous pouvez poser la question, oui, en rentrant ce soir chez vous, quelles sont les valeurs communes sur lesquelles s'appuient nos jugements juridiques ou éthiques. Alors ce qui pose problème, parce qu'il y a quand même des points qui posent problème, c'est notamment où commence et finit la personne. Dignité de la personne, ça c'est sacro-saint. Mais où elle commence et où elle finit, là c'est plus délicat. Et certains donc hésitent à appliquer le mot personne aux premières cellules. Donc aux zygotes ou aux blastocystes, voilà, première cellule, à l'embryon qui commence. Certains hésitent à lui appliquer le principe du respect de la dignité de la personne. Et puis la question peut se poser à la fin de la vie aussi. Donc où elle commence, où elle finit, il y a débat, et il n'y a pas accord. Également, donc, un des points qui pose problème, ce sont les limites du principe du consentement. Donc, si j'avais le temps, je vous dirais que, même dans le droit, le consentement n'est pas le seul principe. Il y a des cas dans lesquels on a beau consentir, c'est interdit. Exemple, la castration, ou travailler dans des conditions de travail dangereuses. Même si on consent, si tout le monde consent, c'est interdit. Il y a des cas dans lesquels le droit pose des principes au-dessus du consentement. Et par rapport à nos questions, donc, d'éthique de la santé, ou du commencement de la vie, ou de la fin, le principe du consentement, seul principe, on le voit actuellement dans le débat sur l'euthanasie, ce qu'on appelle l'euthanasie, est-ce que le consentement suffit, qu'est-ce que ça veut dire dans des situations de détresse, de maladie, bon, c'est un principe qui a des limites, je crois. Également, donc, il y a la définition des biens humains fondamentaux. Par exemple, j'appartiens à l'école qui pense que pour un enfant, avoir un père et une mère fait partie des biens humains fondamentaux. Que naître dans une famille, quand c'est possible, où il y a un père et une mère, c'est mieux. Parce que j'estime que père et mère font partie des biens humains fondamentaux. Mais donc, quelqu'un me dira, quelqu'un me l'a dit un jour au CCNE, mais comment peux-tu dire cela quand on voit le nombre de pères qui partent, qui abandonnent leur famille, ou le nombre de pères indignes qui abusent de leur enfant, ou qui sont violents, ou alcooliques, ou autres. On confond tous les plans, d'ailleurs, vous remarquez ici, on confond le plan des faits, des données, et puis le plan des principes, le plan du voulu, du volontaire, de l'a priori. Mais donc, on n'est pas d'accord sur les biens humains fondamentaux, et certains, donc, verraient sans inconvénient qu'on insémine des femmes célibataires ou des femmes lesbiennes. Donc, là, il y a difficulté. Alors, donc, j'ai prévu de vous donner trois exemples de débats. Mais je ne veux pas être trop long, il ne faut pas dépasser l'heure. J'ai commencé à quelle heure, Xavier? Jusqu'à 9h10. Bon. Donc, trois exemples de débats, justement, donc, auxquels j'ai participé, des groupes de travail dans lesquels j'ai été, parce que c'est souvent dans les groupes de travail que je vous le disais tout à l'heure, donc les questions sont le plus débattues. Donc, il y a eu l'avis 107 à propos du diagnostic prénatal. Et donc, au cours de cet avis, que vous pourrez consulter éventuellement, un des débats a été, donc, sommes-nous dans une logique eugénique? Peut-on parler d'eugénisme? Donc, un vrai débat, un président précédent, Didier Sicard, a dit sur les ondes, il y a quelques années, que nous étions dans un monde eugénique. Bon, alors l'avis, donc, s'est posé la question... Et donc, dans les discussions, eh bien, on a vu donc les deux points de vue possibles. Donc, quel point de vue du oui, la définition de l'eugénisme par son fondateur, qui est Francis Galton, qui était le beau-frère de Darwin, donc définissait ainsi l'eugénisme, sélection des enfants à naître en raison de leurs caractéristiques biologiques et somatiques. Bon, donc si on sélectionne des enfants à naître en raison de leurs caractéristiques biologiques, évidemment, on est dans l'eugénisme. Or, vous savez qu'il y a des malformations, comme la trisomie 21, qui sont donc éradiquées à 96%. Donc, voilà, certains diront qu'il y a eugénisme par rapport à la trisomie ou par rapport à d'autres maladies génétiques. Donc, il y a la traque à la trisomie. Il y a la pression vers l'enfant zéro défaut. René Friedman, qu'on a auditionné, nous disait « Je sens une pression vers l'enfant zéro défaut ». Donc, il y a le fait que la loi prévoit, comme vous savez, la proposition systématique donc, du dépistage de la trisomie à toutes les femmes enceintes, donc dès les premières semaines, hein, avec l'échographie, avec le dosage des marqueurs sériques, avec éventuellement l'amniosynthèse à la fin, qui est davantage un diagnostic qu'un dépistage. Mais donc, certains diront, il y a sélection des enfants à naître. Bon. Donc, il y a risque génétique, eugénique. D'autres diront, non, il n'y a pas eugénisme dans la mesure où l'eugénisme, c'est une politique collective contraignante. Ont été dit eugéniques les États qui interdisaient à telle catégorie de personnes de procréer, qui stérilisaient de force telle catégorie de femmes, donc politique eugénie, collective et contraignante. Or, en France, donc, nous sommes dans un monde libéral où, finalement, ce qui a le dernier mot, c'est la décision des personnes. C'est vrai qu'en France, donc, actuellement, il y a 6500 IMG, interruption médicale de grossesse, en France, par an, il y en a 6500. Et donc, il y a quand même 400 cas où les couples refusent. 400 cas où les couples auraient le droit de demander l'IMG, parce qu'ils passent devant des CPDPN, vous savez peut-être, des comités pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Donc, ils auraient le droit, et il y a quand même 400 par an qui refusent, sur 6500 qui ont lieu. Donc, c'est à la fois peu et beaucoup, à vous de voir. Hein. En un sens, c'est peu, 400 sur 6500, mais c'est quand même beaucoup dans la mesure où on pense que ces gens-là auraient pu pratiquer l'interruption médicale de grossesse et ont renoncé à le faire pour des raisons de principe. Donc, certains diront, en France, c'est l'individu, la personne qui décide. Il n'y a pas de politique contraignante. Même les tests de dépistage de la trisomie sont proposés systématiquement par le médecin. La loi demande que tout médecin les propose à toute femme enceinte, mais on n'oblige pas la femme à les faire. Une femme peut les refuser. Mais d'autres diront, il y a une pression très forte, évidemment, c'est très dur pour une femme de refuser ces tests-là. Mais il est vrai qu'une femme peut les refuser. Donc certains diront, nous sommes dans un pays où domine encore l'individu, la personne, le sujet. Et puis donc, certains diront dans le même sens, j'ai beaucoup entendu cela dans les auditions que le groupe de travail a eues, il est excessif de parler de quête de l'enfant parfait. Bon, je crois en effet que c'est excessif. On ne va pas dire que les couples veuillent un enfant parfait, c'est excessif. Simplement donc, il y a une angoisse devant l'enfant souffrant. Il y a une angoisse devant l'idée de ce que sera la mucoviscidose, de ce que sera la myopathie, de ce que sera la chorée de Huntington, des maladies terribles, c'est vrai. Donc on est angoissé devant la grande souffrance de l'enfant autant que de soi, vous voyez. Et parler de quête de l'enfant parfait, c'est un raccourci un petit peu facile, c'est vrai, moi je le pense aussi. Donc comment est-ce que la vie, 107, a traité cette question-là? Donc il la traite de la manière suivante. En France, pour 800 000 naissances annuelles, on dénombre environ 6 000 IMG. Ce chiffre ne saurait être considéré comme négligeable. Certaines voix s'élèvent et dénoncent une politique d'eugénisme. On sait que l'actuelle loi de bioéthique interdit l'eugénisme, qu'elle assimile à un crime. Le code pénal l'assimile à un crime. Indéniablement, le sens du terme eugénique retenu par le législateur est celui d'un programme politique, hygiéniste et idéologique visant à améliorer l'espèce humaine. Et donc, ensuite, il pense que c'est excessif de parler d'eugénisme chez vous, chez nous. Le critère qui permet de distinguer le dépistage de trisomie 21 d'une politique eugénique est qu'aucune des étapes n'est obligatoire. Voilà. Mais en revanche, donc, il y a un troisième volet de la réflexion. Mais si la puissance publique ne saurait être accusée de mettre en œuvre une pratique eugénique, il importe cependant de veiller, ça c'est l'avis 107 que je vous lis, de veiller à ce que le choix des couples ne soit pas menacé par un climat idéologique incitatif. Parce qu'il peut y avoir un climat qui pousse à une allergie aux maladies génétiques, à telle maladie, notamment la trisomie, qui n'est pas la plus grave. En effet, la pression exercée sur des individus ne vient pas forcément de l'État, elle peut émaner du corps social lui-même. Donc voilà. Donc d'un côté, il y a eugénisme, d'autre côté, il n'y a pas eugénisme, et finalement, il y a quand même le risque de pression sociale. Voilà la logique de la vie. Alors je vous signale que la vie, donc, 107 a été connue dans les médias surtout parce qu'il ouvrait la possibilité de dépister la trisomie 21 lors du DPI, du diagnostic préimplantatoire, si vous connaissez. Préimplantatoire, donc, c'est un diagnostic qui est fait lorsque l'œuf a encore 8 cellules seulement. On prélève une des cellules, on regarde si elle est conforme ou pas, et puis, donc, on laisse ou pas vivre l'enfant. Et donc, on peut donc discerner des maladies génétiques graves, et donc la possibilité était ouverte de repérer la trisomie 21. Parce que forcément, le médecin la verra. Il verra bien, quand il fait le génotype, s'il y a un double chromosome Y à tel endroit. Donc, est-ce qu'il va l'annoncer ou pas? Alors, voilà pourquoi je vous en parle. C'est parce que le comité, le groupe de travail, a ouvert la possibilité de le faire. Le comité estime toutefois que l'interdiction de rechercher une trisomie 21 à l'occasion d'un DPI pour une maladie génétique présente chez l'un des parents devrait être levée. Alors c'est une mesure grave. Alors que faire quand vous êtes membre du groupe de travail que ce point a été ajouté in extremis? Donc je me suis contenté, c'est le choix que j'ai fait, d'ajouter un paragraphe dans le texte. Certains membres du comité ne souscrivent pas à cette proposition. Ils craignent qu'une telle mesure ne modifie le fond de la pratique du DPI en abolissant une limite. La trisomie ne pourra pas être la seule malformation recherchée et la transposition à toutes les procréations assistées pourrait être envisagée. L'interdit actuel leur paraît tracer une voie moyenne à ne pas abandonner. Donc un paragraphe, vous voyez, qui fait état du fait que certains membres sont réticents. On peut faire ça. Autre sujet, donc, c'est le transfert post-mortem, l'avis 110. Alors, une logique assez typique. Au début du groupe de travail, il y avait deux groupes, ceux qui étaient favorables au transfert post-mortem, donc d'embryons post-mortem, après la mort d'un des conjoints. On avait été saisi par un ministère pour cela. Et puis, donc, ceux qui étaient contre. Et ceux qui étaient favorables au transfert post-mortem ont élargi le sujet à l'insémination post-mortem. Donc on avait soit transfert et insémination post-mortem, soit non aux deux. Et puis à mesure que la discussion a avancé, on est arrivé à un compromis auquel je me suis rallié, à tort ou à raison. C'est un des points délicats là, de discernement. Le compromis, donc, c'est de dire non à l'insémination post-mortem. Vous imaginez les raisons. Donc non à utiliser le sperme d'un mort. C'est un peu fou quand on y pense. Et tout doucement, le groupe qui a auditionné des gens, notamment des associations de veuves, qui sont venus nous parler, qui ont dit les preuves que c'était pour elles qu'éduquer un enfant sans père, tout doucement, le groupe s'est fait donc à l'idée de dire non à l'assémination post-mortem. Et en revanche, donc, le transfert, eh bien, ceux qui étaient contre au départ se sont rangés à être pour, parce que l'embryon existe, au nom du respect de l'embryon. L'embryon existe. Et si on pense que l'embryon est un être humain, eh bien, ne pas le détruire est un devoir. Donc, l'embryon existant, eh bien, on pourra le transférer. Donc, c'était un compromis. Mais de justesse, vous voyez, parce qu'être pour le transfert au nom du respect de l'embryon, je reconnais que ce n'est pas évident. Parce que, bien sûr, que le respect de l'embryon, c'est important. Mais d'un autre côté, que l'enfant grandisse toute sa vie sans père, c'est quand même un problème aussi, hein. Donc c'est de justesse que nous avons élaboré ce compromis. Alors un troisième exemple, plus difficile encore, c'est la recherche sur l'embryon, donc qui a été publiée dans la vie 112, vous pourrez consulter. Donc c'est pendant la révision de la loi de bioéthique. Vous savez qu'en France, nous avons un système donc, qui interdit la recherche sur l'embryon, sauf dérogation. Dérogation dans des cas précis, donc je passe, il y en a eu 200 en 10 ans. Donc un nombre assez limité de dérogations, 200 en 10 ans. Donc sauf des cas précis, on maintient l'affirmation de l'interdit de la recherche sur l'embryon. Alors le texte donc, a été rédigé par un scientifique qui a l'esprit très libéral, très critique par rapport à la loi actuelle. Et ce scientifique donc, a souligné le paradoxe de la loi. Il est quand même vrai que le paradoxe de la loi actuelle, c'est qu'on interdit la recherche sur l'embryon, alors qu'on autorise sa destruction. Parce qu'il y a plusieurs cas dans lesquels la destruction de l'embryon est parfaitement autorisée. Il y a l'avortement, bien sûr, et même si c'est au-delà de l'embryon, ça s'appelle le fœtus. Et puis, il y a le diagnostic préimplantatoire, où il est détruit s'il n'est pas conforme. Et puis, il y a d'autres cas encore, il y a tous les cas, des embryons surnuméraires qui ne sont pas conservés. Donc la loi prévoit la destruction de l'embryon. Or, elle interdit la recherche. Évidemment, le scientifique dira, serait-ce que la recherche elle-même est suspecte, suspectée. Il avait un petit couplet que j'ai maintes fois entendu, ce scientifique, disant, quand on détruit un embryon, on peut détruire comme on veut. On peut détruire en l'écrasant, en le jetant par la fenêtre, en le brûlant, comme on veut. Mais si par malheur, on prélève une seule cellule de cet embryon pour faire de la recherche dessus, on est passible du code pénal. Donc il est vrai quand même qu'il y a un paradoxe, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Et puis donc, ce même chercheur a beaucoup insisté sur la différence entre embryon et cellule embryonnaire. Personne n'est pour la recherche sur l'embryon à naître, qui va naître. Personne n'est pour, en France. Et tout le monde, la question se pose seulement pour les embryons in vitro qui vont être détruits. In vitro sans projet parental. Et donc la question est de savoir si, au moment où ils sont détruits, on peut prélever une cellule sur laquelle mener des recherches. Donc produire ce qu'on appelle des lignées cellulaires, si vous connaissez. Il faut avouer que ce n'est pas monstrueux comme idée. C'est vrai quand même que la question se pose. Et la distinction entre embryon et cellule embryonnaire est une distinction qui a du sens. Je reconnais qu'elle a du sens. Voilà. Donc, un texte a été rédigé qui va dans le sens critique par rapport à la loi, et critique tellement la loi qu'à la fin, finalement, on se dit il n'y a plus qu'à autoriser. Et ce texte, à la fin, donc, insiste beaucoup sur le côté indécidable du statut de l'embryon. Nous ne sommes pas d'accord sur le statut de l'embryon, notamment in vitro, en dehors du ventre de la mère, et sans projet parental. Puisqu'on n'est pas d'accord, eh bien, il faut tenir compte du contexte. Et si le contexte, c'est une utilité pour d'autres embryons, pour les enfants à venir et autres, eh bien, pourquoi ne pas l'autoriser? Et le contexte est aussi le projet parental. Parce que le texte souligne qu'en France actuellement, il est bon que vous le sachiez d'ailleurs, tout le monde est d'accord, tous sont d'accord, même les plus matérialistes et les plus relativistes, pour que s'il y a projet parental, on ne touche pas à l'embryon. Ça, il y a un accord total en France là-dessus. S'il y a embryon et projet parental, et a fortiori embryon dans le ventre de la mère, a fortiori, in vivo, a fortiori, pas question de toucher. La question se pose seulement sur un embryon qui va être détruit. Et donc, le texte insiste tellement sur le contexte, vous voyez, sur l'absence de projet parental, sur l'utilité, qu'à la fin, donc, il est assez ouvert, assez relativiste. L'impression qu'on en a, c'est qu'après tout, il serait plus logique d'autoriser la recherche. Donc, à ce moment-là, donc, comme la question est grave, le membre catholique que je suis, et d'autres membres catholiques aussi, d'ailleurs, parce que je ne suis pas seul catholique au CCNE, donc, on dit, il faut absolument manifester un désaccord. Alors quand on n'est pas d'accord, eh bien, on peut donc avoir le procédé suivant, c'est ce qu'on appelle l'avis minoritaire. Donc, si vous consultez les avis, vous en verrez 7 ou 8, à la fin desquels il y a un avis minoritaire. Donc, c'est un petit texte assez court, qui fait 2 ou 3 paragraphes, une page maximum, où des membres expriment leurs réserves. Donc, si on n'est pas d'accord, j'ai failli vous le dire tout à l'heure, mais j'ai passé à autre chose. Si on n'est pas d'accord, vous voyez, on a le choix de 3 possibilités. Soit on s'écrase, on laisse filer. On pense que c'est une question secondaire, on laisse filer. Il y a des cas où on n'est pas d'accord, mais on laisse filer. Soit on rédige un paragraphe dans le texte, que tout à l'heure je l'ai cité pour le diagnostic prénatal. Le problème, c'est que ce paragraphe dans le texte passera un peu inaperçu. Parce que généralement, il n'est pas repris dans les conclusions, il passe un peu inaperçu. Tout le monde a retenu, par exemple, que le CCNE ouvrait au dépistage de la trisomie 21 à l'occasion du DPN, et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont repéré qu'il y avait un paragraphe qui disait que certains membres ne sont pas d'accord avec cette idée. Soit, troisième solution, donc, justement, c'est l'avis minoritaire. Mais l'avis minoritaire, il ne faut pas en abuser, parce que d'une part, c'est vraiment en dernière extrémité, et d'autre part, les présidents n'aiment pas. Le président actuel et les présidents n'aiment pas, parce que c'est étaler au grand jour l'absence de consensus. Voilà. Donc, il ne faut pas en abuser, on peut le faire tous les 2 ou 3 ans, pas plus, vous voyez. Donc, dans votre tête, vous dites, si je le fais pour tel avis, je ne le fais pas pour celui-ci. Et le paragraphe sur le DPN, je m'en étais contenté, parce que j'avais en tête un avis minoritaire sur l'embryon. Donc là, on a rédigé un avis minoritaire qui a eu 11 signataires, dont un juif et un protestant, et 9 catholiques, donc, qui dit ceci. Donc le titre choisi par le président a été « Réserve au pluriel exprimée par certains membres ». Alors, on commence comme ceci. « Tout en prenant acte des distinctions apportées par cet avis et de l'affinement de la réflexion auquel il conduit, nous soulignons que l'éthique du respect, plusieurs fois rappelée dans le texte, il y a des paragraphes qui insistent sur le respect de l'embryon, des paragraphes de ma main qui insistent sur le respect de l'embryon, mais qui ont été contrebalancés par autre chose. D'un côté on dit ceci, mais de l'autre on dit cela. Et voilà. Donc l'éthique du respect, plusieurs fois rappelée dans le texte, implique que soit exclue toute instrumentalisation de l'embryon. Puis après, donc je passe sur le détail. En réponse à la mise en avant du projet parental, nous pensons que la dignité de l'embryon ne vient pas du projet d'autres personnes sur lui, mais de son être, à savoir le développement d'une vie humaine comme telle. Voilà. Et puis donc, on dit plus loin, si, comme l'indique bien la vie, ce n'est pas la recherche en tant que telle qui fait difficulté, et si la destruction d'embryons surnuméraires est de fait prévue par la loi, c'est vrai. C'est la connexion entre l'une et l'autre qui pose problème. Ce n'est pas la recherche seule, bien sûr que non. Ce n'est pas la destruction qui est par ailleurs prévue. C'est la connexion entre l'une et l'autre. C'est le fait que la recherche ait lieu à l'occasion d'une destruction. Voilà. Donc on demande qu'il soit mis fin à la production d'embryons surnuméraires, ou du moins qu'on limite au maximum cette production, voilà, etc. Donc, avis minoritaire, 11 signataires. Et donc, vous le savez, la loi de 2011, contre toute attente, parce que toutes les instances prononcées autres que le CCNE, enfin autres que cet avis minoritaire, toutes les instances prononcées, toutes, Conseil d'État, Office parlementaire, Académie de médecine, toutes s'étaient prononcées pour l'autorisation de la recherche sur l'embryon. Et contre toute attente, le gouvernement a maintenu l'interdit. Et donc, dans la loi de 2011, l'interdit est maintenu, sauf dérogation. Et donc, certains diront, mais s'il y a dérogation, c'est pas lisible, c'est compliqué, c'est hypocrite. Moi, je pense que c'est différent. C'est différent de dire, un, c'est interdit, deux, dérogation, que de dire, a priori, c'est autorisé. Si c'est autorisé a priori, ça signifie qu'il y a une limite symbolique qui est levée. Et qu'au fond, on peut traiter l'instrument, l'embryon comme un instrument, comme une chose. Donc, je suis beaucoup battu pour qu'on maintienne ce principe de l'interdiction de l'embryon, même s'il y a des dérogations. Et donc, le candidat socialiste, actuellement, a annoncé que s'il était élu, eh bien, il allait remettre en cause cela et qu'il allait autoriser la recherche sur l'embryon. Donc la loi de bioéthique serait remaniée. Donc voilà trois exemples, vous voyez, que j'ai évoqués un peu rapidement, bien sûr. Le premier, donc, c'était le diagnostic prénatal. Le deuxième, bien différent, c'était le transfert post-mortem. Vous voyez les sujets gays auxquels nous avons affaire. Hein. Et le troisième, donc, c'est la recherche sur l'embryon. Donc je termine par une troisième partie sur le difficile consensus dans un contexte dit pluraliste. Je dis pluraliste, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que notre contexte soit tellement pluraliste que ça. Hein. Bon. Enfin, il est vrai que toutes les idées peuvent se dire, enfin certaines n'ont pas beaucoup de poids dans le débat. Bon. On dit qu'il est pluraliste. Et le problème, donc, c'est le consensus qui appelle l'argumentation. C'est l'argumentation. Un jour, un des membres du CCNE a cité une phrase de Francis Picabia, qui déclarait, paraît-il, « les convictions qui ne sont pas étayées sont pathologiques ». Et on peut dire que cette phrase fait partie de la charte du CCNE. On est tous d'accord avec l'idée, là-bas, qu'une conviction qui n'est pas étayée est pathologique. C'est vrai que c'est une phrase intéressante. Donc, il faut argumenter. Il faut argumenter. Le problème est celui du rapport entre l'argumentation et l'inspiration. Donc, il est bon d'argumenter, ne serait-ce que pour mettre en évidence que ce sont des biens humains fondamentaux qui sont en question. Et si sont en question des biens humains fondamentaux, il est vrai que ça, on peut le dire rationnellement, on peut le dire avec argumentation. Par exemple, on va plaider pour le continuum dans le développement de l'embryon, et non pas des discontinuités. Par exemple, vous voyez, argument rationnel. Donc, qui dit biens humains fondamentaux, dit argumentation rationnelle. Et il est vrai que si quelqu'un, dans l'enceinte du CCNE, avançait un argument d'autorité, disait « la Bible dit que » ou « le pape dit que », il serait tout de suite mal reçu. Hein. On le sent très bien. Donc il n'est pas question d'avancer un argument d'autorité. Et les arguments que nous avançons, y compris nous les catholiques, si je peux dire nous les catholiques ici, je ne sais pas s'il y a des catholiques ici, sûrement pas d'ailleurs, mais enfin, les arguments que nous avançons, et que j'avance en tout cas, moi, ne sont pas confessionnels. Jamais je ne dirais le pape a dit que ou l'évangile dit que. Et donc je m'appuie sur une philosophie, des arguments philosophiques, par exemple pour dire que le corps n'est pas seulement objet. Ou pour dire que l'embryon à naître est un corps humain commencé. C'est un corps humain commencé. Un jour, j'arrive dans un groupe de travail, et il y a un des médecins, qui est assez connu, mais je ne dirai pas son nom, parce que je viens de voir de réserve, surtout que c'est enregistré, un des médecins assez connus, qui me dit « Ah, monsieur Lacroix, j'étais en train d'expliquer à nos collègues que saint Thomas d'Aquin disait que l'embryon n'avait une âme qu'au bout de 80 jours. » C'est vrai. Il y a un débat, vous savez, sur l'animation de l'embryon, hein, immédiate ou tardive. Le débat, d'ailleurs, est encore ouvert dans l'Église. Il n'est pas tranché dans l'Église. Alors, il m'accueille comme ça. Je dis « Moi, ce qui me préoccupe, c'est pas l'âme, c'est le corps. » Hein? C'est le corps. La question est de savoir si nous avons un corps embryonnaire ou pas. Corps embryonnaire, c'est l'expression qu'emploie un document romain. Ça, je ne le dis pas. Hein? Je ne dis pas que ça vient d'un document romain. Mais en revanche, je dis on a un corps embryonnaire. Bon. Donc l'argumentation est rationnelle, elle est raisonnable. Ou alors donc certains argumenteront pour souligner que la connaissance en soi est une bonne chose. Il y a un avis qui souligne cela. La science, la connaissance en soi est une bonne chose. Elle n'a pas à être suspectée en tant que telle. De même que le don d'organes en soi est une bonne chose. Dans don d'organes, il y a don, et c'est bon en soi. Donc on peut argumenter comme cela en termes rationnels. Donc la difficulté est que parfois la raison ne suffit pas. Et donc il y a des raccourcis un peu courts qui font que la raison parfois est un peu facile, un peu idéologique. Par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la fascination par l'idée d'égalité. Pourquoi est-ce que ce qui est autorisé à certaines femmes qui sont en couple ne serait pas autorisé à d'autres femmes qui seraient seules, par exemple, voyez. L'égalité devient le seul critère, l'obsession. Ou bien alors, notamment, il y a l'idée de soulager à tout prix la souffrance. Là, c'est là que l'on trouve l'idéologie médicale, donc des médecins qui à tout prix veulent soulager une souffrance. Par exemple, diront, une femme qui n'a pas d'utérus ou dont l'utérus a été amputé, elle ne peut pas porter d'enfant. C'est une souffrance terrible. C'est une injustice. On emploiera le mot injustice pour dire qu'une femme souffre de ne pas pouvoir porter d'enfant. Et donc absolument trouver un remède à cette souffrance. Et certains médecins pensent que la souffrance doit à tout prix soulager la médecine, vous m'avez compris, doit à tout prix soulager la souffrance. Également, ce qui est difficile, c'est un dualisme de fond. Un dualisme de fond, je ne développe pas, mais l'idée que l'homme est dans la pensée. L'homme, c'est la pensée, c'est le cerveau, c'est l'intelligence, c'est la raison. Et que le corps n'est qu'un instrument au service du cerveau. Donc très souvent, le dualisme revient avec l'instrumentalisation possible du corps et avec le technicisme appliqué au corps. Donc la mentalité technique appliquée à la procréation, à la naissance, etc. Donc la raison devient vite idéologique, où les principes de la raison, vous voyez, sont vite insuffisants ou conformes à l'idéologie ambiante, voilà, à la mentalité ambiante. Technicisme, égalitarisme, libéralisme, voilà. Donc la difficulté est que nous tenons nos sources ultimes de pensée d'une aspiration. Au fond, si je crois que l'être humain est un, c'est parce que je crois que c'est dans le corps qu'agit l'esprit, que c'est dans le corps qu'agit le Créateur. Et au fond, donc, j'ai une aspiration religieuse. Et je cite souvent un texte d'un médecin juif, Maïmonide, un maître du judaïsme qui était médecin. Dans sa prière, une célèbre prière, il dit « Éloigne de moi l'idée que je peux tout ». Voilà, une belle phrase, vous voyez, donc une limite à toute puissance de la médecine ou de la technique, au nom d'une aspiration religieuse. Donc là, c'est un religieux juif qui parle. Mais donc l'aspiration religieuse peut donc inciter à limiter la toute-puissance, à considérer que la souffrance n'est pas le mal absolu, ne doit pas être soulagée à tout prix, à n'importe quel prix, etc. Donc il est difficile d'argumenter sur ce qui relève de l'aspiration. Et donc le double bind, la double injonction à laquelle nous sommes soumis, c'est d'un côté, donc, il faut argumenter en termes de raison, sinon on n'est pas entendu. Mais de l'autre, à force d'argumenter en termes de raison, on entre dans les catégories de l'interlocuteur, dans les catégories communes. On est obligé d'utiliser les catégories communes. Donc on risque de se couler, de se mouler dans la pensée dominante. Donc c'est très difficile de garder le cap d'une inspiration tout en argumentant sur le plan philosophique seulement. Parce que le risque, sinon, c'est d'être enfermé dans le confessionnalisme. Certains le font, ça, notamment dans le débat public actuellement. Vous avez des gens qui n'hésitent pas à afficher la couleur, qui disent « en tant que catholique, je pense que en un sens, c'est courageux, c'est bien, mais de l'autre côté, donc, ça donne une arme aux adversaires. » Parce que j'ai souvent remarqué que l'adversaire dira facilement « En tant que catholique, vous pensez cela, c'est très bien, vous avez le droit, pensez comme vous voulez, nous respectons la liberté de religion, etc. Mais nous sommes laïcs et laissez-nous le droit de penser ce que nous voulons. » Donc si on affiche trop la couleur confessionnelle, on est enfermé dans le confessionnalisme. Donc à mon sens, il ne vaut mieux pas trop le faire. Mais si on argumente seulement rationnellement, on argumente dans le cadre des catégories communes. Voilà. Et donc évidemment, on risque d'entrer dans le discours commun. C'est le double bind, la double injonction à laquelle nous sommes soumis. Donc, en conclusion, vous avez pu voir à la fois les ressources et les limites d'une telle instance. Donc, les ressources sont celles de la délibération, du PGCD, du plus grand terrain commun, auquel on arrive parfois. Et les limites sont celles du consensus. On n'arrive jamais à un consensus total sur tout. Et donc, il y a un moment où des divergences sont inévitables. Les grandeurs sont celles du compromis. La grandeur, c'est de chercher un compromis entre des options, donc au départ différentes. C'est d'ailleurs la grandeur du CCNE, cela, qui a été imité d'ailleurs par 100 pays. Actuellement, il y a 100 pays qui ont un CCNE, la France ayant été le premier. Donc l'idée que des gens d'appartenance différentes trouvent un compromis n'est quand même pas négligeable, est intéressante. Et je terminerai par une phrase de Gandhi qui disait « L'amour de l'absolu m'a fait comprendre la beauté du compromis ». Je m'arrête là pour un temps d'échange.